Je lirai deux passages de la Bible pour nous aider à réfléchir aux questions que pose à notre protestantisme attaché au salut par la grâce la présence parmi nos contemporains et dans nos familles de juifs et de musulmans très attachés aux œuvres de la loi. Je voudrais réfléchir pour voir comment nous pouvons peut-être, sans doute, débattre, mais dans le but de fraternité et pour réfléchir nous-mêmes à ce que nous sommes. Le premier texte est un verset de Michée, au chapitre 6. Michée, sans doute le texte le plus ancien de la Bible, et il me semble que Jésus, dans sa réforme contre les pharisiens, était enraciné dans ces anciens prophètes d'Israël, Michée, Osée, Ésaïe. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la compassion, que tu marches simplement avec ton Dieu. Et puis, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, le grand texte fondateur du protestantisme, celui dont je faisais apprendre au catéchisme le début, par cœur au catéchumène. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Que Dieu bénisse pour nous la lecture de la Bible. Amen. Et je vous invite à chanter dans Louange et prière le cantique 424, les trois premières strophes. Levez-vous et chantons.
Saint-Esprit, Esprit de vie, de lumière et de foi, source de puissance infinie, dans ma faiblesse, à toi je crie, accomplis tout. Sagesse et que je sainte clarté.
Dieu, il arrive toujours que des hommes se comprennent. Si tu répands sur eux ton esprit, fais-le descendre sur nous, ton Église d'aujourd'hui, et remplis de sa force nos paroles impuissantes. Mets dans notre bouche un langage nouveau, que le monde s'y reconnaisse, que les femmes et les hommes d'aujourd'hui apprennent dans leur propre langue ton message de délivrance. Frères et sœurs, nous sommes attachés au salut par grâce et non pas par les œuvres de la loi. Et nous côtoyons, et de plus en plus, des juifs et des musulmans, souvent très proches de nous, qui nous parlent ramadan, viande de porc, viande halal, respect du Shabbat, kippa que les garçons portent dans la rue, alimentation cachère. Et nous pouvons naturellement rejeter tout cela en disant votre religion est fausse, notre christianisme, salut par la grâce, est la vérité. Un peu de supériorité, d'ailleurs, fait toujours plaisir. Nous pouvons aussi avoir également un peu de supériorité plus subtile en disant mais les juifs et les musulmans sont chrétiens sans le savoir au fond. Quand ils se retrouveront devant Dieu, ils reconnaîtront celui qui les a accompagnés en réalité tout au long de leur vie. Ils ne le savent pas, mais nous le savons. Ça fait aussi plaisir. Pas à eux, mais à nous. Et puis nous pouvons, et naturellement, c'est ce que je vous suggère, pratiquer un pluralisme qui fait que de même que les planètes tournent tout autour du Soleil et bénéficient plus ou moins de sa lumière, de même, nous pouvons dire, tous les hommes, toutes les religions tournent autour de Dieu ou autour de la réalité fondamentale qui nous fait tous vivre. Donc, nous pouvons, avec intérêt, avec curiosité, avec respect, essayer de comprendre comment eux vivent ce que nous vivons, les problèmes quotidiens de nos existences. Et cette attitude pluraliste nous permet, si cela marche, dans un second temps, de pratiquer, comme nous le faisons avec les catholiques, une fraternité basée sur la confiance, l'amitié, le respect mutuel, la prière commune. Et évidemment, les Juifs et les musulmans, dont je veux parler particulièrement aujourd'hui, ne s'attachent pas avant tout à leur respect des règlements. Ils s'attachent avant tout à Dieu, dont ils pensent que ce respect des règles permet d'entrer dans sa volonté, d'entrer dans sa présence, de lui plaire et d'être à ce moment-là de son peuple. Mais voici que nous sommes sensibles à la réforme apportée par Jésus et qui lui a coûté la vie à cause des pharisiens qui étaient tellement attachés aux détails, aux règles, aux 613 règles de la loi de Moïse. Et Jésus, dans sa réforme, est revenu par-delà le livre du Lévitique et de toutes ces règles, aux textes fondateurs, aux textes les plus anciens, les prophètes dont je parlais tout à l'heure, Michée, qui disait « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la compassion, que tu marches simplement avec ton Dieu. » Jésus, dans sa réforme qui a donné le christianisme, et singulièrement le christianisme protestant, s'enraciner dans cette tradition des prophètes d'Israël. Il était vraiment très juif, mais à la manière des prophètes, pas à la manière du Lévitique. Paul a développé largement cette idée d'abandon de la loi au profit de la grâce et de cette présence de Dieu qui monte en nous. Jean, l'évangéliste Jean commence le récit du ministère de Jésus avec ce texte des noces de Cana, où Jésus prend l'eau des ablutions rituelles juives et le transforme en vin de noces, ce qui fait que plus personne dans la pièce ne pouvait pratiquer les ablutions rituelles commandées par la loi, mais buvait du vin de fête. Quel programme pour commencer son évangile. Alors, les Juifs et les musulmans, tout de même, se sentent comme les pharisiens du temps de Jésus. En suivant les règles de Dieu, ils se sentent effectivement proches les uns des autres dans leur fidélité, proches de leurs dirigeants, proches des pharisiens, proches de Moïse, proche de Dieu, avec un sentiment de soutien mutuel, de former ce peuple qui est une communauté sécurisante, tous ceux qui mangent cachère, dans l'assurance du vrai, parce qu'il est vrai qu'il est écrit « tu mangeras cachère ». On se reconnaît frères et sœurs, il en est de même dans l'islam, sans distinction de niveau social, sans distinction de race. Lorsque le pèlerinage de la Mecque se déroule, tous les musulmans vêtus de la même robe blanche disent tous de la même voix « Me voici, mon Dieu, me voici !» et tous suivent les règles de Mahomet. Instinctivement, il me semble, cela frappe tout le monde d'essayer d'avoir des caractéristiques, des traditions qui nous donnent notre identité. Nous aussi, sans doute. J'ai remarqué, l'autre jour, j'étais allé faire un culte dans une banlieue et sur le quai du RER, deux dames, peut-être la mère et la fille, et l'une disait à l'autre, nous ne sommes pas allés à la messe, et pourtant, nous sommes catholiques, nous sommes françaises. Et j'ai pensé, voilà, elles ont reconstitué un rite, une tradition, aller à la messe, ce qui est bien, mais elles disent, cela nous fait reconnaître comme catholiques et comme françaises. Je comprends ce désir instinctif de se raccrocher à une communauté en sécurité, proche de ce qui est dit par les autorités et par Dieu lui-même. Et Paul, dans ses débats houleux avec les disciples de Jésus-Christ, lorsque, au début, vous savez, il les persécutait, Paul a découvert, en polémiquant avec les premiers chrétiens, que l'attachement qu'il avait, lui, pharisien, lui, suivant les règles, les œuvres de la loi, l'attachement qu'il avait à la loi n'était pas forcément un attachement à Dieu, que c'était peut-être plutôt un attachement à cette identité qui le rendait semblable au peuple fidèle, différent des autres hommes, dans sa bulle, dans sa caractéristique, ce qui est sécurisant, mais ce qui n'est pas forcément le dessein de Dieu. Et Paul, qui est un mystique, Paul, qui est l'homme du contact direct avec Dieu, où il dit aussi être en Christ, ce qui signifie dans son langage sans aucun doute « Dieu est en moi ». Paul, pour qui le contact direct avec Dieu était la source de sa vie, de cet élan vital, de cette force, de ce dynamisme créateur qu'il faisait vivre, Paul qui disait « Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Paul qui vivait d'un Dieu présent, chaleureux, de renouveau, d'espérance, de vie, s'est rendu compte qu'il ne vivait pas d'un Dieu du jugement, des règles, des rites. Et il est entré dans cette réforme de Jésus-Christ avec l'enthousiasme que vous connaissez, centrant toute son identité sur une présence bienfaisante en lui qu'il pouvait, que nous pouvons puiser à tout moment au plus profond de nous et qui nous donne notre caractéristique d'enfant de Dieu et non pas, disait-il, la circoncision, la nourriture cachère. Paul, alors, dans cet enthousiasme du ministère de Jésus-Christ, se sent intégré non pas au peuple juif, non pas aux pharisiens dont il était, non pas à Moïse, mais intégré dans les enfants de Dieu du monde entier. Et pour lui, pour nous, la communauté juive disparaît. Les mages venus d'Orient, c'est ainsi que Matthieu commence son évangile. Ces mages dont on nous dit, ils étaient astrologues. Alors vous savez, c'était puni de mort par la loi de Moïse. Ces mages dont on dit qu'ils étaient d'Orient, alors Irak peut-être, qui disent, nous nous prosternons devant le roi des Juifs. Alors, les Irakiens sont-ils juifs? Les Juifs sont-ils irakiens? Dans ce début de l'évangile de Matthieu, il n'y a plus de frontières. Dès que l'enfant Jésus paraît, la femme syrienne, dont parle aussi l'évangile de Matthieu, qui dit « Mais les petits chiens prennent les miettes qui tombent de la table des enfants. Il n'y a plus de différence maintenant entre la nourriture des petits chiens et la nourriture des enfants, entre les Syriens et les Juifs. » Le concile de Jérusalem, qui autour de Jacques, a décidé « On ne circoncira plus personne. Tout le monde peut être ainsi, enfant de Dieu, à partir du moment où il laisse entrer dans son cœur cette présence qui fait vivre. » Il n'y a plus, si je comprends bien, maintenant, de peuple de Dieu juif. Il n'y a plus de peuple de Dieu musulman. il n'y a plus de peuple de Dieu catholique. Il n'y a plus de peuple de Dieu protestant. Il y a des fidèles, juifs, musulmans, catholiques, protestants. Mais nous ne formons plus un peuple. Le peuple de Dieu, c'est le monde. L'identité apportée par Jésus-Christ ne se fonde plus sur un particularisme ethnique, une obéissance religieuse, mais sur cet amour de Dieu, cette présence de Dieu offerte à tous dans la participation enthousiaste au dessein du dynamisme créateur. Tous les hommes du monde puisent en eux, qu'ils le sachent ou qu'ils l'ignorent, tous les hommes du monde puisent en eux cette présence de Dieu, on dit le Saint-Esprit, de paix, de fraternité qui nous rapproche les uns des autres, qui fait que nous sommes tous dans la même barque avec un seul commandement, aimer Dieu et son prochain. Tous les hommes, comme disait l'ange de Noël, paix sur la terre parmi tous les hommes de bonne volonté. Et vous savez qu'on peut traduire paix sur la terre parmi tous les hommes que Dieu aime. Alors, comme les deux dames sur le quai du RER, nous avons évidemment tendance à reconstituer des règles. Je vous donne un exemple. Pensez à la parabole que nous raconte l'évangile de Luc du pharisien et du péager. Alors, quand on vous met en scène dans le temple un pharisien et un péager, tout de suite vous pensez, le pharisien circoncis, mange kasher, respecte les règles, contrairement au péager qui est impur. Ce n'est pas tout à fait cela que la parabole telle que Luc nous la rapporte est rapportée, puisque la prière du pharisien n'est pas de dire, comme on pouvait s'y attendre, « Moi, je mange kasher, moi, je respecte le Shabbat. » Mais il dit « Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Ça, ce n'est pas dans la loi juive. Tous les autres hommes, au lieu de dire qu'ils sont impurs et qu'ils ne prennent pas la peine de respecter les traditions des pharisiens, non, on les accuse d'être ravisseurs, injustes et adultères, ce qui n'est pas caractéristique de la loi juive. Ce qui fait que cette parabole est au second degré. J'ai l'impression que Jésus s'adresse non plus aux juifs et aux païens de son temps, mais s'adresse un demi-siècle après aux paroissiens chrétiens de l'église de Luc qui étaient en train de reconstituer sourdement des règles à la manière des juifs, des règles différentes, des règles chrétiennes. J'ai l'impression d'avoir là en scène un pharisien chrétien. Alors, si vous regardez autour de vous et en nous, bon, nos amis catholiques, contre lesquels nous affirmons le protestantisme. Nous l'affirmons fraternellement, de manière sympathique, chaleureuse, enfin, nous l'affirmons. Et nous trouvons que les catholiques ont reconstitué des règles selon les œuvres de la loi quand ils disent qu'il faut confesser le credo de Nicée-Constantinople. Vous savez, lumière de lumière, engendrée, non pas créée. Il faut accepter le concile, il faut accepter l'autorité du pape, il faut accepter la légitimité de l'Église dans la succession apostolique, la présence réelle dans l'Eucharistie. Sinon, on n'est pas dans la vraie Église, on n'est pas dans le peuple de Dieu catholique, on n'est pas dans les œuvres de la loi. Je pense à un ami prêtre qui m'invite toujours à prêcher dans son Église. Nous sommes amis depuis 30 ans et qui m'a dit... Cher ami, quand vous célébrez la Sainte Cène, c'est très bien. Mais Dieu voit bien la différence quand c'est moi qui la célèbre. Il avait reconstitué une règle de la loi. Nos partenaires évangéliques ont des règles aussi. Si vous ne confessez pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si vous ne le prenez pas pour votre sauveur personnel, Si vous n'admettez pas l'idée que le salut vous est donné du péché originel par le sang du Christ versé sur la croix, si vous n'êtes pas baptisé à l'âge adulte, vous n'êtes pas vraiment dans le royaume. Un ami évangélique qui voulait me faire un compliment m'a dit il y a quelque temps, vous n'êtes pas loin du royaume. C'était bien pour lui. Enfin, il trouvait que je n'y étais pas, ne serait-ce que parce que j'avais été baptisé enfant. Reconstituons des règles. Frères et sœurs, je me demande si nous, nous en reconstituons aussi. Le disciple de Jésus, fidèle à cette réforme chrétienne, n'a plus de mur de protection face aux autres hommes, face à nos contemporains. Nous n'avons plus aucune assurance d'être juste, l'assurance qu'apporte le respect des règles de la loi. Un juif, un musulman, sait très bien quand il a mangé cachère ou quand il n'a pas mangé cachère. Mais nous qui n'avons qu'un commandement, le commandement d'amour, aucun d'entre nous ne peut dire « moi, j'aime ». Nous n'avons plus la possibilité d'être sûr que nous sommes dans le vrai. Nous sommes comme tout le monde, comme tous les hommes de bonne volonté. Il fut un temps, j'étais aumônier militaire, j'allais à une caserne de filles, et tout un groupe de filles est venu et m'a dit « Nous, on n'est pas protestantes, mais avec vous, protestants, c'est sûrement beaucoup mieux, est-ce qu'on peut venir ?» Alors j'ai dit « Bien sûr ». Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, elles ont dit, vous êtes protestant, vous allez nous parler du protestantisme. Et j'ai pensé, mais non. Je leur ai dit, mais c'est pas le protestantisme qui est important. Ah, elles ont dit, alors voilà, qu'est-ce qui est donc important ? Frères et sœurs, qu'est-ce qui est donc important ? Alors j'ai dit, Dieu. Elles ont dit, ah ben, ça fait rien, parlez-nous de Dieu. Bon. Quelle garantie est-ce que nous avons que notre identité est juste ? Que pouvons-nous alléguer devant Dieu que nous avons fait avec certitude pour être de son peuple ? Rien. Qu'avons-nous comme prescription alimentaire que nous puissions suivre comme règlement de prière ? Rien. Quelle est notre confession de foi obligatoire ? Aucune. Qu'est-ce qui compte ? L'élan d'amour de Dieu qui monte un peu en nous, la paix qui nous apaise, la force qui nous permet d'affronter la vie. Je pense à une jeune femme, professeure de mathématiques, athée, qui me disait « Prouvez-moi Dieu !» Et alors, elle venait dans un groupe biblique, on lisait l'Ecclésiaste. Vous savez, l'Ecclésiaste, vanité, des vanités, tout est vanité. Il en est de celui qui offre des sacrifices, comme de celui qui n'offre pas de sacrifices. Ils ont le même sort l'un et l'autre. Elle a dit, alors, qu'est-ce qui nous distingue ? Et j'ai dit, qu'est-ce qui nous distingue ? Elle a dit, rien. Dieu. Dieu. Mais oui, certainement. Et je pense aussi, quand j'étais pasteur à Montrouge, vous savez, à Montrouge, il n'y a pas un magnifique temple comme ici, c'est un temple rectangulaire tout blanc. Et je le faisais visiter à un couple qui devait être marié, là, qui a accusé le coup et qui a dit « Mais il n'y a rien, c'est tout blanc !» Alors j'ai dit « Il n'y a rien, il y a Dieu. » Et ils ont dit « On se sent nus, certainement, mais avec Dieu. » Alors, quand nous parlons à nos contemporains, catholiques, évangéliques, protestants, juifs et musulmans, de quoi parlons-nous ? Alors, nous n'allons pas parler de nos règles qui nous distinguent de leurs règles, parce que ce serait revenir à des œuvres de la loi. Nous parlons de nos problèmes humains, de nos désirs de vie, de nos angoisses existentielles, puisque nous avons les mêmes, et puis de cette présence qui monte en nous, au plus profond de notre âme, une force, un élan, une vie qui nous permet de vivre notre vie en restant souriant et fraternel, une présence en nous qui est Dieu. Amen.